Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ça fait 10 mois, quelques semaines, quelques jours, quelques heures et des poussières que le linge s'empile chez les lessiveuses. On pourrait vous sortir 1000 excuses pour ces longs mois de silence, la fin des études, les vacances caniculaires, le retour au bercail, l'aventure chômage. Mais plutôt que d'user de salive pour se justifier, on a décidé de se retrouver pour un grand ménage de printemps avant l'heure. Après tout, réchauffement climatique oblige, les saisons sont en avance. Il va nous falloir une armée de bras, de mains et de voix pour décrasser tout ça. Remplacer l'odeur chimique de la lessive patriarcat par celle du savon de la colère, parfum justice, couleur féministe. De quoi redonner de l'éclat à nos étendards. Attention, ça glisse, les vieux schémas virilistes vont se casser la gueule et faire une sortie de piste. On commence avec une chronique de Lucie qui abordera les représentations racistes de notre imaginaire commun à travers l'ouvrage collectif Sexualité, Identité et Corps colonisés. Mathilde enchaînera sur des réflexions autour de la culture pornographique avec un sujet sobrement intitulé Éléments de réflexion autour du porno pour faire la sieste de 14 h en ronflant moins bête ou pour siroter son café en faisant un bruit plus distingué. Manon clôturera cette 16e émission par des questionnements et réflexions philosophiques sur le traitement des corps âgés dans notre société. Lucie, on t'écoute.
Merci Laura pour cette introduction. Donc oui, aujourd'hui le sujet ça va être un petit peu de se pencher et observer en fait tracer un peu les mutations des représentations racistes dans notre société qui est dite postcoloniale avec donc ce livre Sexualité, Identité et Corps colonisés qui a été publié en 2019 aux éditions du CNRS. C'est un ouvrage de chercheurs et de chercheuses, universitaires et collectifs surtout. Il y a plus de 50 personnes à travers le monde qui ont participé. Et le livre regroupe différentes thématiques. On parle notamment de la domination des corps, de la sexualité dans les empires coloniaux, de l'héritage de la hiérarchisation des races au sens sociologique. Et la construction mondialisée d'imaginaires ou de fantasmes racistes. Donc le but aussi, c'est de déconstruire le regard colonial qu'on porte encore aujourd'hui. Et il s'attache surtout à démontrer que la violence coloniale a aussi été une violence des représentations et comment ces images et ces fantasmes charriés par des siècles de colonisation, ont créé une seule vision de l'autre, c'est-à-dire le non-blanc et le colonisé. Et le fait d'avoir une unicité de la vision, c'est nier l'individualité et donc du coup déshumaniser le colonisé ou bien ses descendants. Donc la représentation, ici dans le contexte, on peut dire que c'est le regard qu'on pose sur l'autre et qui se veut absolument objectif et réel, en fait. Et donc c'est prendre un fantasme pour quelque chose d'existant ou même de véridique. Et c'est le regard aussi qu'on refuse de poser sur soi. Il y a un refus actuel du passé colonial. On pourrait parler de, par exemple, ce qu'a dit Fillon pendant la campagne de 2017. Bon, ça a un petit peu mal vieilli d'ailleurs parce que Emmanuel Macron s'était rendu en Algérie pour dire et dénoncer la colonisation, dire que c'était un crime contre l'humanité. Et Fillon, dans l'Hexagone, suite à ses déclarations, a dit que... En plus, j'ai noté, il a dit exactement, Monsieur Macron a qualifié hier la colonisation de crime contre l'humanité. Et puis il est là derrière son petit pupitre et dans la salle, il y a vraiment des huées. Les gens s'indignent. On ne peut pas qualifier la colonisation de crime contre l'humanité. On ne peut pas s'excuser de ce qu'ont fait nos ancêtres français, vraiment. Donc c'est pas si vieux que ça, quand même, 2017. Donc en fait. Cette manière de vouloir nier les horreurs qui ont été faites et qui continuent d'être faites et qui découlent de ça, c'est nier la discrimination qui est faite aux populations marginalisées. Ça poursuit l'invisibilisation de leur lutte et puis ça permet d'asseoir les privilèges blancs, bien entendu. Et les études décoloniales, d'ailleurs, subissent des attaques constantes. On peut citer Frédéric Vidal, l'année dernière, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a voulu mener une espèce de police dans les recherches décoloniales, à la recherche de l'islamo, l'islamo-gauchisme. Enfin, c'était vraiment... Ça, je me souviens, ça, c'était pour la... Bon, le CNRS a quand même eu une réponse très forte, l'a envoyé un peu péter. Donc, ça, c'est ce qui se passait un peu dans la sphère politique. Mais dans la sphère médiatique, ça a fait scandale aussi. Puis là, je voulais parler sur la sortie du livre en 2018 de « Sexe, race et colonie ». Donc, il fait un lien avec le livre dont je m'appuie aujourd'hui, puisqu'il est sorti une année avant. Et il est mené par le même collectif de chercheurs, sauf que cette fois, il était beaucoup plus important. C'était 100 chercheurs et chercheuses sur les mêmes thématiques, la violence des représentations en contexte colonial. Et donc, il a été publié à la Découverte, et pas aux éditions du CNRS. Donc, c'était un livre qui s'adressait au grand public. C'était un livre d'images, plus de... Je crois plus de 2000 images, photographies, cartes postales, etc., avec des représentations sexualisées, pornographiques, qui circulaient de l'époque coloniale. Et il y a eu une énorme polémique médiatique, enfin des médias dominants en tout cas, qui ont dit que l'ouvrage était très choquant, qui glamourisait la pornographie, hein, alors qu'il s'agissait d'images extrêmement encadrées. Par les textes de chercheurs, de chercheuses et chercheuses qui dénonçaient et analysaient ces images. Donc c'est une très très mauvaise manière de faire émerger ces sujets dans la sphère publique. Néanmoins, ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce livre a eu un très très fort succès en librairie. Et donc le sujet n'intéresse évidemment pas que les chercheurs, que la demande de la population est forte, et encore plus chez les descendants des colonisés. Donc il y a moyen quand même que le grand public s'empare de ces questions-là, et de la bonne manière, en dehors des sphères politiques réactionnaires, et de la sphère médiatique avec les médias dominants. Mais le sujet reste tabou encore aujourd'hui, quand même, dans ces sphères-là, avec cette malfaçon assez honteuse des médias. Plus concrètement, donc, pour parler de ce sujet, je m'appuie sur ce que raconte la chercheuse Naïma Yahi. Alors, elle est historienne, elle est spécialiste des musiques maghrébines et aussi de l'histoire culturelle des artistes algériens et algériennes en France. Et donc, elle a participé à cet ouvrage « Sexualité, identité et corps colonisé ». Elle avait participé aussi à Sexe, race et colonie d'ailleurs, mais elle avait eu un article, enfin, elle avait dû restreindre beaucoup ses propos, alors que dans le second, il n'y a pas d'image, et puis les chercheurs ont le temps de développer beaucoup leur théorie. Et donc elle décrit dans une série d'articles l'univers des danseuses du ventre, et comment, à partir des danseuses du ventre, il y a un déplacement de ce mythe sur le temps long pour aboutir aujourd'hui au mythe de la beurette. Donc ce sont les mots qu'elle a repris, elle, un mot commun, et comment ce fantasme charrie tout un paquet de stigmates sur le corps des femmes, arabo-orientales en particulier. Donc au XIXe siècle, y a une hypersexualisation des danseuses du ventre qui sont associées automatiquement à la prostitution. Quasiment. Dans les années 50, elles vont devenir des artistes à part entière, mais avant, ça reste quand même moralement assez mal vu. Et c'est une danse qui est très fantasmée pendant la colonisation française. Pour l'homme blanc colonial, c'est quasiment une invitation à la sexualité avec des femmes qui sont dites exotiques. Et tout leur corps subit la fétichisation raciste, en fait. Et il y a d'autres univers aussi qui vont être énormément fétichisés. Il y a le harem, il y a les bains turcs aussi. Ce sont deux univers culturels qui vont être pillés par l'imaginaire colonial, où on va hypersexualiser constamment ces univers-là, en les déshistoricisant aussi beaucoup. Et toute la vérité de ces pratiques ont été réduites à une caricature sexuelle, en fait. Et les danseuses du vent du 19e siècle sont des femmes en réalité qui sont précaires, qui sont isolées, qui se retrouvaient dans des cabarets parisiens forcées de danser et de répondre à ce besoin d'exotisme des hommes blancs en fait. Et c'est là où a commencé à se mettre en place une idée, une notion qui est très très importante, qui s'appelle l'orientalisme, qui a été développée par Edward Said. C'est Zahra Ali qui en parlait très très bien sur un plateau de télé il y a quelques années. Zahra Ali a publié un livre qui s'appelle « Féminisme islamique au pluriel ». Qui a été publiée à La Fabrique en 2012. Et donc, elle racontait sur le plateau d'Edward Said cette notion de l'orientalisme. En très, très gros, l'orientalisme, c'est l'Orient créé pour et par l'Occident, en fait. C'est un Orient qui, dans les faits, n'existe pas, mais c'est l'Orient que l'Occident a voulu croire vrai et qui est, bien sûr, extrêmement stigmatisant. Il a été recréé, donc, et cet imaginaire orientalisant a été entretenu tout le 19e et le 20e siècle par le monde culturel, le cinéma, les peintures, la littérature, les spectacles. On a plein d'images comme ça en tête, de tableaux, d'harems, de femmes toujours un petit peu lascives, un petit peu extrêmement richement vêtues. Et donc ça a charrié quand même avec des représentations sexuelles et ça a stigmatisé le corps des femmes orientales ou maghrébines. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on le découvre dans les analyses de Christelle Tarot. Donc Christelle Tarot, c'est la co-directrice de ces deux ouvrages. Hein. Elle est spécialisée de l'histoire du genre, des femmes et de la sexualité en contexte colonial, au Maghreb. Et du coup, pardon. Et elle expliquait... Attendez, j'ai perdu dans mes notes... Et dans ses analyses, Christelle Tarot parle du porno colonial. Donc ça, c'est son terme à elle, où elle explique que la beurette, c'est une catégorie pornographique qui est très importante. Et il y a une filiation directe de ces imaginaires sexuels entre les danseuses du ventre à l'époque, et puis après avec l'arrivée d'Internet et des sites pornographiques de la beurette. Et en fait, le porno colonial, c'est une manière de continuer à charrier ces stigmates racistes, parce que c'est une violence des représentations hein, sur les corps des femmes, et ces femmes sont classées en catégories diasporiques, de manière un peu comme ça, très organisée. Il y a les femmes asiatiques, il y a la femme africaine subsaharienne, il y a la femme tahitienne, la femme maghrébine, voilà. Dans le réel, la conséquence directe, c'est que ces stigmates sexuels ont des conséquences très... très dure et très violente, puisque ces femmes-là sont deux fois plus exposées aux violences sexuelles que d'autres femmes, parce que la stigmatisation des corps renvoie à une catégorisation psychique et comportementale. En fait, les agresseurs voudront voir en elles des femmes plus violentables, quelque part, que d'autres catégories de femmes. Et c'est une conséquence directe du colonialisme. Le corps de ces femmes doit servir de fantasme. Et c'est Nadège Bossandiane qui en parlait très très bien dans un plateau de Mediapart auquel je vous renvoie, qui est la co-autrice de Noir n'est pas mon métier, qui expliquait que son corps, exotique à souhait, selon le regard blanc, doit constamment servir de fantasme. Ensuite, ce qu'expliquent les chercheuses, c'est qu'après, il ne faudrait pas croire non plus que cette hypersexualisation des imaginaires et des corps, ces représentations viendraient comme ça d'instinct de l'homme blanc, parce qu'il rencontre un corps qui est différent de celui qu'il a l'habitude de connaître ou quoi. Il y a une stratégie pensée derrière, qui est colonisatrice. Derrière cette violence des représentations, c'est là qu'on... c'est fondamentalement politique. Pourquoi est-ce qu'on s'empare comme ça du corps des femmes? Ça, je cite Naïma Yahi, parce que je trouve que c'est une très belle phrase, enfin, très important. L'homme va humilier le corps de la femme de l'autre pour lui montrer son infériorité, en fait. Et on infériorise le corps de l'indigène en s'emparant de celui de sa femme. C'est là que ça devient très, très politique. Dans une société patriarcale, la sexualité est un enjeu de pouvoir, un enjeu de rivalité entre les hommes, dont le vecteur est la victime et souvent la femme. Et si c'est, ça, c'est ce que permet d'adopter le point de vue féministe dans cette recherche décoloniale, c'est-à-dire que ça permet d'observer que dans une société patriarcale, effectivement, où on s'imagine que la rébellion, la résistance ne peut venir que d'un homme, on utilise le corps de la femme pour humilier le rival. Et on ne s'occupe pas tellement de la rivalité que pourrait engendrer la femme en soi. Et donc, pour conclure, pour être un petit peu plus dans le concret et montrer juste un exemple, par exemple, de ces recherches, je peux faire une petite historisation des figures, des hommes et des femmes arabes, et comprendre quel regard nous posons sur les enfants décolonisés encore aujourd'hui. Donc, pour déjà à l'époque où débute la colonisation, l'idée c'est que pour délégitimer le pouvoir des hommes colonisés, il faut les déviriliser, en fait, puisque leur masculinité pourrait poser problème. Et donc, pour ça, l'homme blanc, au XIXe siècle en tout cas, lors de la conquête de l'Algérie notamment, va inventer quelque chose que Christelle Tarot appelle le juste viril. En fait, c'est surtout ça. Ça rappelle une grande stratégie du colonialisme, en fait, c'est la hiérarchisation des cultures et des races. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule manière d'être homme, il n'y a qu'une seule manière d'être femme, il n'y a qu'une seule manière de vivre, de faire l'amour, de se marier, de s'éduquer, de vivre ensemble. Il n'y a qu'un système politique valable, et évidemment, le seul valable, c'est celui de l'homme blanc. Et donc, ça justifie la violence, ce fameux besoin des blancs là d'aller éduquer les autres, car ils ont d'autres systèmes politiques. Et donc ce juste viril, il est un peu, c'est un peu à ça que ça fait référence. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule manière d'être un homme, et donc la bonne, c'est celle du blanc. Et surtout, on remarque que les hommes arabes et algériens en particulier ne sont jamais dans le juste viril. C'est-à-dire qu'ils sont dans les représentations, hein, qui circulent en France, etc., de ce pays. C'est-à-dire que les hommes, dans les représentations, sont toujours soit extrêmement efféminés, soit extrêmement masculinisés, c'est-à-dire ils deviennent directement des agresseurs. Ce sont toujours des hommes violents, potentiellement violeurs et voleurs par ailleurs. Et Christelle Tarot dit que dans les textes du XIXe siècle, quand on lit ces textes-là sur la conquête de l'Algérie, on y lit de la part de chercheurs qui sont respectés, etc., là-bas, enfin, en France, et Christelle Tarot les cite, « Les Blancs pensent très sérieusement que le viol est une distraction quotidienne des hommes algériens. » Donc là, on crée une figure qui est extrêmement médiatisée en France. L'homme arabe et algérien en particulier est extrêmement dangereux. Et donc, ça sert à soumettre le colonisé d'une part, et puis ça sert aussi à faire peur aux blanches, c'est-à-dire on évite les couples mixtes. Ça faisait beaucoup peur à l'administration coloniale française. Et donc, ces représentations, elles ont été beaucoup vues dans les années 30, surtout avec, ça c'est Naïma Yahi qui en parle, avec les Sidi. Donc c'était des Algériens qui étaient venus travailler en France, et comme ils vivaient dans l'Hexagone, ils avaient beaucoup plus de chances de rencontrer des femmes blanches, bien sûr, et évidemment, il y a eu des couples mixtes qui se sont formés, dont beaucoup ont pris part à la décolonisation de l'Algérie, d'ailleurs. Et donc, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé avec ces couples mixtes, parce que l'administration coloniale française, pour les décrédibiliser, s'est attaquée aux femmes blanches qui étaient avec des hommes arabes. Et il y a eu une administration de surveillance qui a été dite sanitaire, quand même, pour réguler ou suivre ces couples mixtes qui sont extrêmement suivis par les services sociaux. Et ces femmes blanches, dans la représentation, elles sont toujours montrées comme soit des prostituées, soit des femmes vicieuses, soit des semi-folles, des inconscientes, ou des femmes qui sont sous emprise. Voilà. Donc il n'y a pas de choix, il n'y a pas vraiment d'amour derrière ces couples-là, apparemment. Bon, évidemment, c'était faux, mais c'est quand même assez grave et important de le noter. Donc voilà, début 19e siècle, on cherche à dévilériser les hommes. Dans les années 30, on a par exemple le phénomène des Sidi. mais les stigmates survivent et se déplacent. Dans les années 80, il y a ce que nous, on n'a pas connu, c'est la génération beurre, parce que moi, j'ai découvert ce mot-là tardivement en arrivant en France, parce que j'ai compris qu'il fallait inverser le mot très, très tard, bon bref. Et la génération beurre, c'est ce qu'explique Naïma Yaï, c'est une figure hybride, c'est-à-dire qu'elle a... C'est la figure de l'immigré arabe en France qui a plus de chances de s'intégrer que ses parents, c'est-à-dire les années 30, mais c'est une intégration à la française, c'est-à-dire une intégration muette, invisible, de quelqu'un qui a... enfin voilà, qui n'existe pas. Dans les années 2000, on criminalise tous ces jeunes descendants de l'immigration. Ils deviennent les ennemis intérieurs, ils deviennent les mecs de quartier, ils sont traités d'islamistes, on les traite de dealers à capuche. Ça, on voit bien que c'est quand même un gros cliché, c'est une représentation, encore une fois. Et les stigmates continuent d'évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi par rapport aux femmes. Et Naïma Yaï rappelle une formule des journaux de l'époque, dans les années 2000, sur les filles maghrébines qui commencent à être médiatisées, parce qu'avant elles n'existaient pas, hein, plus invisibles que l'immigré, c'était sa femme. Mais dans les années 2000, elle rappelle une formule d'un journal qui disait « la beurette comme avenir du beurre ». Donc une figure qui commence à émerger un peu, c'est de ces jeunes filles discrètes, respectueuses et studieuses. Voilà. Et dans les années 2020, on remarque que maintenant, c'est la jeune fille maghrébine ou la femme maghrébine et son voile qui sont relayées au même rang que cet ennemi intérieur. Donc c'est elles qui sont criminalisées, c'est elles qu'on associe aux islamistes extrémistes, voire on en fait carrément des complices. Et aujourd'hui, on peut avoir cette impression que maintenant, c'est elle et le voile qui met à mal la République, en tout cas pour les réactionnaires. Et donc, les représentations coloniales se déplacent, elles continuent d'exister. Et décoloniser nos regards sur ces populations marginalisées, c'est aussi nous éduquer, nous, enfin, je veux dire les Blancs, avec ce que les descendants des colonisés nous disent sur eux. Donc pour ça, il faut commencer à les écouter et arrêter de les invisibiliser. Et je vais citer une chercheuse qui s'appelle Ouria Boutelja, qui est une grande figure du Parti des indigènes de la République. Elle disait dans les années 2000 sur un plateau, je cite, « On met toujours la focale sur les quartiers populaires. On dit qu'ils sont en déficit de culture, en déficit de conscience politique, qu'il faut les éduquer, etc. Et on occulte complètement le reste de la société et ses privilèges. » Et elle, j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement, il serait temps quand même qu'on réhistoricise un peu ce qu'a été vraiment le colonialisme, qu'on remette l'accent de manière très conséquente sur, par exemple, le massacre du 17 octobre, insister sur la révolution haïtienne, dire que oui, la France, c'est le parti des Lumières, mais aussi le parti communiste français a été pour l'Algérie française. Découvrir beaucoup plus en détail ce qu'a été, puis même l'apprendre, ce qu'a été l'Afrique avant qu'on la pille, mettre l'accent sur ce que c'est et la légalité finalement de ce que c'est le contrôle aux faciès, apprendre ce que c'est la misogynie noire, vraiment aussi s'éduquer avec leur regard à eux. En effet, et apprendre à lire et à écouter des chercheuses et des chercheuses, des intellectuels comme Maboula Soumaoro, Edouard Saïd, Frantz Fanon, Aïssa Maïga, Zahra Ali, Saïd Bouamama, Mam Fatou Yang, Amandine Gay, etc. Je ne peux évidemment pas tous les citer. On mettra des références sur notre page Instagram. Mais je voulais aussi citer, vraiment pour conclure, des comptes qui sont extrêmement intéressants. On a Bled à ce sujet, c'est la bibliothèque des coloniales. On a aussi Décolonisons le féminisme. Donc ça, c'est extrêmement important pour sortir un peu de ces idées de féminisme blanc. Il y a aussi le conte Vécu décolonial, qui parle d'histoires beaucoup plus intimes, très intéressant. Et je vais terminer par citer Angry Afrofemme. Voilà. Merci pour l'écoute.
Retour des lessiveuses au crachoir. Pour ma part, je vais essayer de faire écho à ce dont Lucie, tu viens de parler, en faisant un petit détour par mon livre de chevet du moment, qui pour un livre de chevet n'a pas de tout repos, puisqu'il parle de porno. Attention, suffocation, mains moites et gouttes de sueur sur le front. Et non, je ne vais pas vous lire le tout nouveau recueil de nouvelles érotiques que j'ai écrit, mais prendre ma voix la plus universitaire possible, tout en vous parlant pornographie. Pour ce faire, je vais invoquer Florian Voros comme argument d'autorité, parce que c'est justement lui qui a dirigé le livre qui se trouve en ce moment sur ma table de chevet. Ce livre, alors c'est quoi ? Eh bien, ce livre s'appelle « Culture pornographique, anthologie des porn studies ». Il a été publié en 2015 aux éditions Amsterdam sous la direction de Florian Voros. Et Florian Voros, alors c'est qui ? Eh bien, c'est un chercheur en sciences sociales de l'Université de Lille. Il est très intelligent et surtout, il est spécialisé dans la question des relations entre les masculinités et la pornographie. Ce livre donc recoupe 9 textes fondamentaux qui ont été écrits depuis le début des Porn Studies, des textes que Florian a jugé important de rassembler pour faire de son livre une sorte de boîte à outils conceptuelle de manière à équiper nos réflexions sur la question. En gros. Je tâcherai ici seulement de faire émerger quelques éléments de lecture plutôt que de résumer ce livre de 275 pages en espérant que ça provoque quelques discussions houleuses autour du café que vous êtes ou non en train de siroter. Voici donc des éléments de réflexion autour du porno pour faire la sieste de 14h, enfin plutôt 15h, en ronflant moins bête ou pour siroter son café en faisant un bruit plus distingué. Bon, pour introduire aux Porn Studies, je vais vous lire le début de l'intro du livre, intro écrite par Florian, bien sûr. Dans les débats sur la sexualisation des médias, la distinction entre le bon érotisme et la mauvaise pornographie est souvent invoquée. Indifférentes aux normes de bon comportement culturel et sexuel, les Porn Studies posent quant à elles un regard féministe sur toutes les formes de représentation sexuelle, sans distinction moraliste ou élitiste, avec un intérêt particulier pour les plus pornographiques et les plus obscènes d'entre elles. De la carte postale orientaliste au spam porno, en passant par le film Hard, les Porn Studies prennent tous les textes sexuels à bras le corps. Ceux-ci sont lus, visionnés, écoutés, manipulés, ressentis et analysés en rapport avec leur contexte historique de production, de diffusion, de consommation et de régulation. Linda Williams, l'une des instigatrices des Porn Studies, souligne que l'obscénité désigne simultanément ce qui est grossier, vulgaire, qui a trait aux excréments, et ce qui doit être placé hors de la scène de la représentation publique. L'indiscipline des Porn Studies consiste alors à replacer au centre des pratiques de recherche et d'enseignement ces mêmes textes vulgaires et dégoûtants qui avaient été évincés à la fondation au XIXe et XXe siècle des différentes disciplines qui composent aujourd'hui le paysage des sciences humaines et sociales. Il y a deux éléments dans ce démarrage du livre qui me semblent importants ici de soulever. Le premier, c'est la volonté de poser un regard sans distinction moraliste ou élitiste, c'est-à-dire en évitant le biais d'un jugement punitif envers et contre le porno qui serait par exemple amoral, irait à l'encontre de la bienséance étant un concept de classe créé par les classes supérieures pour se distinguer des classes inférieures. Le deuxième passage qui me semble important de souligner pour essayer de comprendre la démarche dans laquelle s'inscrit les Porn Studies, c'est l'élément « prendre les textes sexuels à bras le corps ». Ceux-ci sont lus, visionnés, écoutés, manipulés et ressentis. C'est-à-dire que le visionnage des supports porno, que ce soit des vidéos, textes, sons, etc., va provoquer des émotions et des sensations corporelles et que les chercheurs et chercheuses ne sont pas imperméables à ces émotions, autant d'attraction que de dégoût. Il s'agit donc de dire que ces sensations font partie intégrante de l'expérience de recherche. Les Porn Studies engagent donc une réflexion sur la place de ces émotions dans la production de connaissances. Ces deux éléments-là, ils contrastent totalement avec ce qui a été fait précédemment dans l'histoire des études sur la pornographie. Ainsi, dans l'introduction, Florent nous apprend qu'à l'origine, le mot pornographe renvoyait, je cite, « au médecin hygiéniste qui produit des connaissances sur les travailleuses du sexe sans être flétri par le contact de ces malheureuses ». Donc on imagine là le scientifique farouche portant moustaches et monocle et sa canne, hein, évidemment, qui lui permet de maintenir une distance de sécurité bien mesurée entre sa science et l'obscénité. Au XIXe siècle, le mot pornographie prend un sens nouveau et désigne la représentation de choses obscènes sans préoccupation artistique, avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle du public. On comprend que l'étude de ce qui est obscène a été vite placée entre les mains des scientifiques masculins et bourgeois et qu'il s'est donc agi pendant longtemps d'envisager la pornographie en termes de problème social, avec un regard extérieur prétendument détaché de toute émotion et subjectivité, mais en réalité moraliste, élitiste et surtout carrément hypocrite. Je vous laisse deviner quels sont les premiers domaines de recherche universitaire qui se sont emparés de la pornographie. C'est bon, vous avez deviné ? Réponse, la criminologie et la psychiatrie. Et cela, bien sûr, avec l'objectif d'étudier les effets négatifs de la consommation de porno sur la santé psychologique des femmes, des classes populaires et des enfants. C'est-à-dire, on a compris, sur les groupes sociaux dont les chercheurs ne faisaient pas partie. La question qui me vient alors, ces chercheurs se sentaient-ils protégés de l'influence de la pornographie ou simplement ça les intéressait peu de comprendre l'influence que la pornographie pouvait avoir sur eux? La pornographie donc. Premièrement, elle fait partie intégrante de notre société, elle ne laisse personne indifférent, qu'elle dégoûte ou excite, ou même les deux en même temps, qu'on en soit des consommateurices occasionnels ou chevronnés, qu'elle nous rende accro ou plutôt qu'elle nous mette à cran. Force est de constater qu'elle reflète les contradictions et les hypocrisies les plus évidentes de notre société. À entendre les discussions à son sujet, personne ne donne beaucoup l'air d'en regarder. Ce serait encore un truc d'adolescent prépubère et de pervers solitaire, un cliché qui persiste encore beaucoup. Pourtant, les chiffres sont là. La pornographie concerne une recherche sur quatre sur Internet. Il semblerait donc que beaucoup d'adultes en regardent, mais qu'en société, peu assument franchement en regarder. Le porno est donc une pratique culturelle largement adoptée dans toutes les sphères de la société, ce qui implique que, au même titre que d'autres pratiques culturelles, elle a un pouvoir d'influence sur nos imaginaires. La pornographie a longtemps divisé, continue de diviser, et elle a été largement traversée par les sex wars, ou les guerres du sexe, aux États-Unis pendant les années 80, qui, pour résumé vraiment grossièrement, a été lancé par les féministes anti-pornographie, argumentant que le porno, tout comme la prostitution ou le BDSM, était le principal lieu de la domination des hommes sur le corps des femmes. En riposte à ce mouvement, se sont rassemblés les féministes pro-sexe, portées notamment par des groupes de défense du droit des travailleuses du sexe. Et ce que les féministes pro-sexe ont amené, plutôt que la censure, c'est une réappropriation féministe des imaginaires pornographiques. En gros, on se met nous aussi à créer du porno. Et c'est à ce moment-là que débarque sur le terrain le porno queer, féministe et lesbien. Vient à point nommé un autre constat pour ne pas passer sous silence les arguments des féministes anti-porno, c'est que la production pornographique majoritaire ou mainstream est largement traversée et nourrie par des stéréotypes sexistes, racistes, classistes et qu'elle contribue ainsi à véhiculer ces stéréotypes à travers nos imaginaires. Donc ce porno-là, il est largement dominé par ce qu'on appelle le male gaze. C'est-à-dire que les dispositifs de cadrage nous amènent à prendre une position de spectateur masculinisé qui adopte un regard fixe et insistant sur des corps féminins qui sont fétichisés. L'anthologie des Porn Studies, elle revient sur différents moments clés de l'histoire de la pornographie et elle nous permet de comprendre comment les pratiques et les scénarios se sont peu à peu standardisés et ont contribué à implanter en nous des fantasmes bien stéréotypés avec des schémas classiques hétérosexuels de domination de l'homme et de soumission de la femme. Et comment, par exemple, l'éjaculation est devenue un objectif final dans les scénarios pornographiques et qui a pris en quelque sorte le rôle de témoin nécessaire qui vient acter la vraisemblance du scénario. Donc cette histoire de la pornographie qu'on retrouve tout le long de l'anthologie, elle permet de comprendre pourquoi la pornographie est elle aussi empreinte de ces motifs d'oppression classiste, sexiste, raciste, exotisant. Et j'en viens ici au chapitre 7 de l'anthologie qui s'appelle « Quand l'obscénité tombe entre de mauvaises mains » par Lisa Siegel. Lisa Siegel explique qu'avant les années 1880 et l'apparition des cartes postales porno, la pornographie était littéraire, réservée aux hommes blancs et riches qui jouissaient de privilèges politiques, économiques et culturels. Elle était chère, difficile à trouver et inaccessible aux personnes illettrées. Elle excluait les femmes, les enfants, les pauvres, et cela même alors qu'elles en étaient les principaux sujets. Ce système d'exclusion s'est effrité avec le développement de la photographie et des cartes postales pornographiques qu'on se passait un peu de main en main comme des cartes Pokémon. Ces cartes postales constituaient un support pour les textes pornographiques qui étaient plus accessibles, compréhensibles et moins chers que les livres. Et c'est évidemment à ce moment-là que les messieurs moustachus et binoclards font leur apparition dans la recherche sur la pornographie et commencent à se préoccuper vachement de leurs effets. Dans le contexte colonial, pour faire écho à ta chronique, Lucie, ces cartes postales, elles ont largement servi de véhicule pour les imageries racialistes autour des sujets coloniaux et des peuples étrangers. Ce sont également elles qui ont naturalisé l'image des femmes en tant qu'objet passif et sexuel. Je vais vous citer un extrait du texte. Donc, les cartes postales sexuelles existaient sous deux formes. Celles qui pouvaient être envoyées par courrier en toute légalité et celles qui ne passaient pas la censure. Les cartes postales légales utilisaient quasiment les mêmes dispositifs et éléments visuels que celles qui étaient proscrites, mais respectaient un code strict. Les poils pubiens, le sexe et les points de dessin des femmes devaient rester cachés. Elles ne faisaient que suggérer ce que montraient les cartes postales illégales. Les organes génitaux des hommes étaient rarement montrés sur ces cartes, d'ailleurs, rares étaient les hommes représentés. Les cartes postales illégales ne pouvaient pas être envoyées par la poste et devaient donc être soit placées sous enveloppe, soit remises en main propre, soit conservées devers soi. Ces critères ne s'appliquaient cependant pas aux cartes postales représentant des sujets, entre guillemets, étrangers ou coloniaux, en particulier des personnes non blanches. Les poils pubiens, les organes génitaux et les points de dessin pouvaient passer la censure si la carte représentait un sujet colonial ou étranger. Les censeurs permettaient même les images d'hommes nus si ceux-ci étaient indigènes. Le colonial et l'étranger s'en trouvaient ainsi à la fois hypersexualisés et désexualisés. Dans les représentations des peuples colonisés, les personnes non blanches étaient mises en scène dans leur, entre guillemets, milieu naturel, composé de harems, de paysages exotiques. Ces indigènes provenaient des contrées colonisées et exotisées sur lesquelles les Européens et les États-Unis exerçaient leur domination. Ces cartes postales naturalisantes se situaient quelque part entre la pornographie, la science et le tourisme. Donc voilà, en lisant ce chapitre, on comprend comment les cartes postales ont servi de véhicule à une idéologie raciste et sexiste, et comme cette idéologie a directement pris place dans la pornographie. Bon, il y a encore beaucoup de questions à se poser sur la pornographie pour alimenter les conversations autour d'un café. Malheureusement, la sieste est terminée, donc la suite au prochain épisode. Il y a encore plein de choses à dire sur cette anthologie. J'espère que ces premiers éléments de lecture autour du livre Culture pornographique nous permettront de ronfler en toute distinction, et je nous souhaite de continuer à fantasmer en regardant derrière nous pour comprendre d'où viennent nos fantasmes, mais en regardant devant nous aussi pour éviter de nous prendre un poteau et pour élargir notre vision du porno. Chères toutes, chers tous, voici maintenant bien longtemps que j'avais commencé ce triptyque sur l'agisme, assez longtemps pour que vous ayez toutes et tous oublié de quoi je veux parler. Entre-temps, il y a eu l'été, la réforme des retraites que notre cher gouvernement nous impose une fois de plus en force, et moult 49.3.
Ce triptyque donc, je l'avais commencé il y a quelques mois afin de parler de l'âgisme, c'est-à-dire la façon dont le corps vieillissant, surtout celui des femmes, est perçu et considéré au sein de la société. Mon but était surtout de parler et d'interroger les personnes autour de moi par rapport à leur corps qui change, rendre visibles et audibles des témoignages et des voix qui sont souvent invisibilisées. En effet, si on regarde bien le corps vieux est écarté, mis au banc du regard, comme s'il n'était plus digne d'être regardé, désiré et pris. Aussi, comment peut-on avoir envie de vieillir dès lors que l'on n'entrevoit pas d'avenir pour notre peau et pour nos passions ? Je disparais à mesure que l'âge vient sur moi. Rapport au corps, donc, ou manière dont le corps est perçu. Je me suis interrogée et j'ai interrogé dans les chroniques précédentes ma mère et mon amie Corinne, et toutes deux ont écrit des textes superbes que j'ai adaptés pour l'antenne. Dans leurs textes, elles se sont confiées sur les questions de maturité, de perception de soi, de maladie, de changement et de beauté, entre autres. Je voulais interroger ma grand-mère pour parler de son rapport au grand âge, si on peut dire ça comme ça, le rapport au corps qui s'épuise et à l'immobilité aussi. Mais entre-temps, j'ai perdu ma grand-mère, son cœur a cessé de battre et son corps de fonctionner, définitivement. Et tout cela dans une espèce de déni et de violence hospitalière. Non pas qu'on a été hospitalier avec elle, mais c'est plutôt l'hôpital qui n'a pas été hospitalier avec elle, et c'est bien là le problème et le paradoxe qui se construit sur une commune racine langagière. Alors j'ai construit cette chronique en forme de questionnement philosophique, si on peut dire ça comme ça aussi, plutôt que comme une chronique sachante et instruite où je me serais savamment documentée sur un nombre précis de personnes âgées maltraitées en France ou bien sur une moyenne calculée. Il y a quelques années, déjà, j'avais assisté à la mort de ma grand-mère paternelle, qu'on n'avait pas réellement soignée parce que, disait-on, ça n'en valait pas vraiment la peine. Alors ils avaient fait ce qu'ils font à tous les vieux en fin de vie, ce qu'ils nomment « assistance à fin de vie », c'est-à-dire cesser de nourrir et de faire boire la personne qui peu à peu se dirige vers son trépas. On appelle cela « accompagner », mais dans quelle mesure est-ce accompagner plutôt que sevrer, couper avec le vivre, le vital, ce qui fait sens avec l'essentiel justement. Le corps privé cède, puisque plus rien ne l'attire. Souvent j'ai entendu cette phrase revenir dans les moments où l'on pleure nos grands-parents, nos aïeux, nos âgés. On demande « Et quel âge avait-il ou avait-elle » On répond « 80, 90 », enfin on répond « l'âge du mort ». Et on s'entend dire « Ah, c'est qu'il aura ou qu'elle aura eu une belle vie ». Alors, il aura fait son temps. Vous savez, ce n'est pas comme s'il était parti dans la fleur de l'âge. Souvent, toujours, au fond de moi, une colère immense. Faire son temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, merde ? On parle d'un être vivant, pas d'une vieille bagnole ou d'un objet dont la société capitaliste prévoit l'obsolescence pour qu'il cesse de fonctionner et soit remplacé. Alors, qu'est-ce que ça peut bien symboliser, cette phrase, dans la bouche de ceux et celles qui tentent de consoler ? Ainsi, faire son temps. Il m'a fallu me rendre à l'évidence que l'on écarte la mort et ce qui fait vieillesse de soi, de son chez-soi, parce que ce qui devient vieux, ce qui s'abîme et se dégrade fait peur, comme le miroir de notre propre finitude. Je ne sais pas. Pour ma part, j'ai toujours été plus à l'aise avec mes grands-parents ou des personnes bien plus âgées que moi qu'avec les personnes de mon âge. J'aimais les écouter me raconter des histoires, je me sentais comprise, contrairement aux adolescents de mon lycée qui n'étaient pas forcément toujours très gentils avec moi. Donc plus tard, j'ai accompagné souvent mon père à la maison de retraite où était enfermé mon grand-père. Je dis enfermé parce que j'avais cette sensation-là, quand j'y allais, d'une résidence, d'un haut quartier sécurisé d'où les pré-mourants ne devaient surtout pas s'enfuir. Et quoi de plus comique qu'une fuite de vieux, si on peut dire, dans les artères d'une petite ville de région à faible densité de population. Si c'était réellement arrivé, je pense que ça aurait fait les gros titres aux journaux locaux. La vieillesse fait peur, c'est un fait indéniable et il me faut chaque fois me demander pourquoi. Lorsque j'étais à l'internat à Aurillac, une fille du même âge que moi m'avait dit « Je ne sais pas comment tu fais pour vivre avec tes grands-parents. Moi j'ai la phobie des vieux, ça me terrifie. S'ils me touchent, je m'évanouis. » Je me souviens très précisément de ce moment lorsqu'elle m'avait dit ça, du prénom de la fille et de son air angoissé. Je me souviens que je lui avais dit que je ne savais pas, que je me posais pas vraiment la question parce que j'aimais mes grands-parents plus que tout et que je ne voyais pas en eux la vieillesse, le vieux quoi. Je me souviens que je lui avais demandé « Mais comment feras-tu quand tu vas vieillir ? Parce que tu sais que tu vas vieillir à un moment, n'est-ce pas ?» Et elle m'avait dit qu'elle n'espérait pas vieillir, mais mourir avant. Ce que j'avais trouvé passablement déprimant. Bref, le lycée a fini depuis, et je n'ai plus jamais revu cette fille phobique de la ride au coin des yeux. Je ris, mais ça avait l'air d'être du sérieux son affaire. Même si avec du recul, je conviens qu'il s'agissait là d'une grande angoisse existentielle, peut-être mal gérée ou difficilement exprimable, et j'espère du fond du cœur qu'elle est heureuse là où elle est. Enfin, le lycée a fini, et avec le temps, j'ai accompagné souvent mon père dans cette EHPAD quand je revenais à Aurillac. Je remarquais qu'avec le temps, l'état de mon grand-père se détériorait, qu'il ne pouvait plus marcher, que souvent il passait des journées entières dans sa chambre ou dans son fauteuil roulant, sans rien faire. On le poussait dans un coin et puis on l'oubliait. Pardon, c'est absurde. Il ne se plaignait jamais et il ne parlait pas. Il était déprimé, il s'ennuyait beaucoup. On lui hurlait dans les oreilles pour lui parler. On l'infantilisait. Mais alors je me demande, s'intéresse-t-on à la santé mentale des personnes âgées ? On leur dit « Ça va passer, ça ira mieux demain. Mais oui, mais oui. » A-t-on de l'empathie pour des personnes qui savent qu'elles attendent la mort et que plus rien ne peut les divertir de cela? Mourir est la seule chose qu'il leur reste à faire, n'est-ce pas? Elles auront fait leur temps, épuisé toutes les cadences, les heures et les oripeaux de l'ennui. A-t-on de l'empathie? Est-on à même de se mettre à la place d'un tel ennui, même d'un ennui qui s'oublie lui-même dans le cas des maladies telles qu'Alzheimer ou de la sénilité? Je reviens à mon grand-père. Lui qui avait passé sa vie à faire naître des enfants, puisqu'il était gynécologue obstétricien, devenait l'enfant que l'on était censé soigner à présent. Pourtant, pourquoi cette expérience me laisse un goût amer dans la bouche? Chaque fois que je passe près de cet endroit, de cette EHPAD, j'ai la nausée. Ça ne devrait pas être compliqué de gérer ça. Mais pourquoi les choses sont-elles tellement mauvaises? Il me faut me poser la question suivante et élaborer une sorte de constat. Mon grand-père qui a été utile toute sa vie en tant que soignant, que médecin, dès lors qu'il n'a plus les moyens d'utiliser ses ressources mentales et physiques, dès lors qu'il a cessé d'être utile et cessé d'exister en tant qu'individu capital, en tant que capital et nécessaire pour la société, et dès lors qu'on ne voyait plus l'utilité de le soigner avec... Et dès lors, je veux dire, on n'a plus vu l'utilité de le soigner avec le même acharnement. Pourquoi donc réparer une dent qui ne servira que si peu de temps ? Les médecins, les soignants sont-ils tous pareils ? Bien sûr que non. Mais dans la mesure où le personnel soignant est traité avec mépris, mépris de classe, comment peut-on attendre qu'il y ait de l'amour dans le métier sur le long terme ? On se demande, en voyant les aides-soignants, aides-soignantes en sous-effectif, comment ils et elles peuvent endurer un travail aussi physique et psychologiquement épuisant sans être épuisés. Et rapidement, on comprend, dans une certaine mesure, comment, de soignant, on devient maltraitant. C'est quand on essaie de comprendre l'enchaînement des violences et des micro-violences qui souvent naissent de la répétition de gestes, souvent réitérés, à des cadences simplement infernales. Une minute par patient et pas une de plus. Que l'on peut envisager, que l'on essaie d'envisager ce pourquoi ces micro-violences ont lieu. Les soignants, je pense pas que ce soit le problème. Le problème, c'est ce qui est au-dessus de la chaîne. Le rachat des EHPAD, par exemple, par des sociétés privées qui traitent les patients comme des numéros et demandent des sommes astronomiques aux familles pour traiter avec si peu de soins et de respect les corps qui ont justement besoin de la plus grande des douceurs. C'est parce que la société, parce que les politiques maltraitent le système de soins et de santé que les soignants ne sont plus en mesure de procurer le care. Récemment donc, j'ai perdu ma grand-mère et j'ai encore du mal à réaliser ce deuil, je peine à analyser les raisons de ce manque et à comprendre. Peut-être est-ce parce que ça a eu lieu au sein de l'hôpital et que j'ai vu ma grand-mère mourante dans une chambre aseptisée. Et pourtant tout était là pour que je m'y prépare, pour que je comprenne que le corps était en train de lâcher. Pourtant j'ai eu affaire à des médecins qui ont refusé systématiquement de nous donner des informations concernant l'état de santé de notre grand-mère. Avant de mourir, elle avait fait une chute chez elle qui était très grave. Elle est tombée la tête la première sur le sol et son visage est devenu littéralement bleu. Le lendemain, cependant, l'infirmier, lors de la visite, ne s'est pas dit qu'il fallait appeler le médecin ou alors la faire hospitaliser d'urgence. Il a simplement dit oh, « s'il y avait quelque chose, ça se saurait ou alors on l'aurait décelé, quoi ». Mais quelle sorte de soin est-ce là, en fait ? Idem à l'hôpital, tandis qu'on venait visiter notre grand-mère qui était secouée littéralement par des tremblements insoutenables. Elle était plus capable de s'alimenter ou de boire seule sans faire valdinguer la cuillère ou tout ce qui était dans ses mains, quoi. Elle somnolait en permanence, donc l'interne s'est adressé à nous en nous disant « bah vous voyez, elle dort, tout simplement ». Ce à quoi j'ai rétorqué « vous appelez ça dormir, vous ». Quand on dort, chez moi on plonge dans le sommeil. Et puis on se réveille le lendemain, dans la conscience, on ne tremble pas et on ne somnole pas. Non, on se réveille, on est capable de parler, ce n'est... Enfin, pour moi, c'est pas dormir, là, c'est tout autre chose. Et comme il aimait pas qu'on lui tienne tête, ce médecin, il a tourné la tête vers ma grande sœur et puis lui a demandé « Bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ces signes vitaux étaient bons ce matin. Vous voulez que je les fasse prendre à nouveau par une infirmière ? C'est ça que vous voulez que je fasse ?» Question rhétorique complètement débile, bien sûr. Ce à quoi ma sœur a dit, eh bien oui, nous on a besoin de savoir si la chute qu'elle a faite chez elle a entraîné éventuellement des séquelles neurologiques. Une personne de cet âge-là qui tombe, c'est jamais bon, vous comprenez ? On a besoin de savoir, nous. Parce qu'elle a jamais eu de problème d'élocution pour parler ou se souvenir, et là elle est complètement, elle est devenue complètement incohérente, quoi. Et là-dessus, le médecin nous regardait comme si on lui faisait un affront, l'affront de poser des questions, de demander, l'affront d'être là avec notre grand-mère et puis de questionner, d'être trois femmes bien sûr en plus, ça n'aide pas. Et bien sûr, il s'est servi de sa blouse blanche et de la dimension de savoir-pouvoir pour clore la discussion d'une manière très, comment dire, brusque. Et d'asseoir une autorité sur ma sœur qui tentait de lui faire part de ses inquiétudes de petite fille face à sa grand-mère. Donc je me suis posé les questions, quoi, dans quelle mesure peut-on communiquer avec les médecins ? Quelle autorité représente-t-il ? Est-ce une autorité bienveillante ou au contraire une autorité qui dédaigne et méprise dans une sorte d'imitation de la société elle-même ? Après, bon, les infirmières sont venues, elles ont réalisé que l'oxygène n'était pas branché, donc ma grand-mère n'avait pas d'assistance respiratoire depuis X temps, donc là, on s'est dit super. Quand je réfléchis à tout ça, je tente de comprendre, bien sûr, est-ce qu'il y a des raisons qui font que certains médecins sont sous pression ? Il y en a, c'est sûr. Et que les infirmières et aides-soignantes peinent à gérer toutes les tâches qu'on leur demande de faire parce qu'ils et elles sont en sous-effectif. Mais quelles seraient les façons pour pallier à ça et améliorer les systèmes qui sont en souffrance ? Quand je tente d'analyser les fins de vie de mes grands-parents, tout ce que je vois, c'est des corps usés et là qu'on a à un moment malmenés. Et pourquoi ? Est-ce parce que les corps âgés font peur, parce qu'ils sont trop lourds à soulever et à tirer ? Est-ce parce que les soignants sont en souffrance eux-mêmes et qu'ils n'ont plus la force de soulever ces corps qui pèsent ? Est-ce parce que les soignants sont pas préparés aussi peut-être physiquement à soulever ces corps-là, qu'on leur donne peut-être pas les bonnes techniques de manutention, si on peut dire ça comme ça, et que dans l'effort du coup, parce qu'ils sont pas préparés physiquement, ils malmènent et ils font mal aux personnes âgées. Je me pose toutes ces questions parce que je peine à comprendre. Je me demande s'il y aurait d'autres façons pour que nos âgés souffrent moins, qu'ils partent dans des conditions décentes et qu'on puisse comprendre les raisons de leur départ, sans s'entendre dire qu'il ou elle a fait son temps, parce que peu importe l'âge, rien ne change l'attachement, bien sûr. On met la mort à distance, on la cache, on la couvre. Elle est bien laide, on pense. Le vieux est misérable, ce qui perd ses dents n'est plus digne d'être regardé, d'être aimé. Moi, je dis foutaise. Prendre soin de l'autre dans son âge avancé, c'est faire don de soi au vivant et créer du lien. Je pense qu'il faudrait déjà arriver à appréhender son propre rapport à la finitude pour être en paix avec nos âgés, pour pouvoir les aider et les aimer, tenter de sortir de ce schème de l'angoisse, ou du moins tenter d'appréhender l'angoisse pour la digérer et peut-être pouvoir garder seulement les oripeaux de la joie, comme lorsqu'on a la pleine conscience de ce qui peut être. On peut appréhender le tragique de chaque chose et mesurer, être à même de mesurer combien l'existence est riche, émouvante et joyeuse. S'amuser de chaque instant, pouvoir rire avec ses grands-parents et aimer la bouche édentée ou pas, et les yeux grands ouverts pour accueillir les sens et les saisons. Voilà, j'en ai fini. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.
I'm traveling in some vehicle. I'm sitting in some cafe. A defector from the petty wars that shall shut up away. There's comfort in melancholy when there's no need to explain. It's just as natural as the weather in this moody sky today. In our possessive coupling, so much could not be expressed. So now I am returning to myself. These things that you and I suppressed, I see something of myself in everyone. Just at this moment of the world, the snow gathers like bolts of lace, waltzing on a ballroom girl. You know it never has been easy, whether you do or you do not resign. Whether you travel the breadth of extremities or stick to some straighter line. Now here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna thaw out or freeze. The strains of many good men coming through the snow and the pine. I'm porous with travel fever, but you know I'm so glad to be on my own. Still somehow the slightest touch of a stranger can set up trembling in my bones. I know no one's gonna show me so deep and superficial. Between the forceps and the stone, to finance.